Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 2 août 2021. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'inauguration de projets nationaux est une épine aux yeux des conspirateurs contre l'Iran, selon le président sortant Hassan Rouhani. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, les représentants de 73 pays étrangers assisteront à l'investiture du président élu iranien Ibrahim Raisi. L'Iran dénonce les positions inappropriées, partielles et partiales anti-iraniennes de Londres et de Washington. Le Hamas réélit Haniyeh à la tête du mouvement pour un second mandat. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les représentants de 73 pays étrangers assisteront à l'investiture du président Raisi. Le porte-parole du président de l'Assemblée iranienne a annoncé la présence de 115 responsables étatiques de 73 pays étrangers à la cérémonie d'investiture du président élu Ibrahim Raisi. Selon Nizamuddin Moussavi, 115 responsables étatiques de 73 pays étrangers assisteront à la cérémonie de l'investiture du président élu Ibrahim Raisi. Cette cérémonie se tiendra le 5 août 2021 dans l'Assemblée islamique d'Iran. L'inauguration de projets nationaux est une épine aux yeux des conspirateurs contre l'Iran, déclaration du président sortant Hassan Rouhani. À l'époque où nous étions confrontés à la fois à la guerre économique et au coronavirus, il était très important de répondre au monde et les inaugurations les jeudis étaient une épine dans le pied de ceux qui complotaient contre l'Iran, se félicite le président Hassan Rouhani. S'exprimant dimanche après-midi, lors de la cérémonie d'inauguration des projets nationaux des ministères du pétrole et de l'intérieur et de l'Organisation de l'énergie atomique et de l'Organisation de la sécurité sociale à travers le pays, le président sortant Hassan Rouhani a déclaré « Au cours des 8 dernières années, de nombreuses mesures ont été prises dans le pays et de grands projets ont été inaugurés. Et quand on parle de ces réalisations, il ne s'agit pas seulement du gouvernement, mais de la grande nation iranienne. » Sans fournir de preuves concrètes, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont accusé l'Iran d'attaques meurtrières contre un pétrolier appartenant à des Israéliens au large des côtes d'Oman. Dans un nouveau geste anti-iranien, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a promis une réponse appropriée pour reprendre ses mots, affirmant que Washington était convaincu que l'Iran avait mené l'attaque. Suivant le pas aux États-Unis, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a également déclaré que les évaluations de Londres indiquent que l'Iran avait utilisé un drone pour cibler le pétrolier. Ces allégations sans fondement interviennent suite à une accusation israélienne proférée, comme d'habitude, contre l'Iran. Téhéran a fermement nié toute implication dans l'attaque contre un pétrolier appartenant aux Israéliens et rejeté les accusations sans fondement du régime de Tel Aviv et de ses alliés. Téhéran a déclaré qu'il n'hésiterait pas à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale. L'attaque contre le navire s'est produite jeudi, causant la mort d'un agent de sécurité britannique et d'un membre d'équipage roumain. La Cour suprême d'Israël doit se prononcer sur le projet d'expulsion des Palestiniens du quartier Sheikh Jarrah à Al-Quds occupé. Le verdict attendu ce lundi pourrait conduire au retrait forcé des Palestiniens de leur maison ancestrale pour laisser la place au projet de construction de colonies du régime israélien au profit des colons. La décision a été retardée après que le procureur général a demandé plus de temps pour étudier l'affaire en mai. Le plan israélien avait déclenché la colère et des protestations qui se sont heurtées à une répression de la part des forces du régime occupant, faisant des centaines de blessés parmi les Palestiniens. Depuis les affrontements de mai, Sheikh Jarrah est bloqué par les troupes israéliennes, ce qui, selon les habitants, équivaut à un siège. L'affaire a également attiré l'attention du monde entier, des groupes internationaux de défense des droits de l'homme qui accusent Israël de comploter pour s'emparer de plus de terres dans les territoires occupés dans le but de les remettre aux colons. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine a réélu Ismaïl Haniyeh au poste de président du bureau politique pour un second mandat entre 2021 et 2025. L'homme politique de 59 ans dirige le Hamas depuis 2017. Son second mandat durera 4 ans. Haniyeh a été en charge des activités politiques du mouvement de la résistance à Gaza et en Cisjordanie occupée. Il était le bras droit du fondateur du Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, assassiné en 2004. Haniyeh a vécu de multiples conflits avec Israël, dont la guerre de 11 jours qu'Israël a menée contre Gaza en mai de cette année. Au cours de ce conflit, Haniyeh a dirigé des groupes de résistance qui sont sortis victorieux. L'actualité, c'est également l'Afghanistan. Dans ce pays, les forces gouvernementales se battent contre les talibans dans plusieurs grandes villes et bombardent le groupe dans le but de stopper leur avancée vers les capitales provinciales. L'armée afghane a déployé des centaines de commandos dans des villes comme Herat, où de violents combats de rue sont en cours entre les troupes et les talibans. Dans la province de Lashkargah, les autorités ont appelé à davantage de soldats pour repousser une offensive. Plus tôt dimanche, les talibans ont déclaré avoir frappé l'aéroport de Kandahar avec 3 roquettes, provoquant l'annulation de tous les vols. Les talibans ont déclaré que l'armée avait utilisé l'aéroport pour mener des frappes aériennes contre eux. Les talibans ont récemment lancé des attaques radicales sur plusieurs fronts pour prendre le contrôle d'autant de zones que possible. Direction l'Afrique, plus précisément le Niger, 15 soldats ont été tués, 7 blessés et 6 disparus dans une attaque dans le sud-ouest du Niger. Les troupes ont d'abord été prises en embuscade dans la ville de Torodi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ensuite, ils ont été touchés par un engin explosif improvisé alors qu'ils tentaient d'évacuer les blessés. Le ministère nigérien de la Défense a qualifié l'incident d'attaque terroriste. Le département de Torodi est situé dans le sud-ouest de la région de Tillaberi, qui se trouve dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette zone est le théâtre de fréquentes attaques de groupes extrémistes armés et terroristes, dont Daesh et Al-Qaïda, qui ciblent de plus en plus les civils. Enfin, aux États-Unis, le Congrès n'a pas trouvé d'accord pour prolonger la suspension des expulsions mises en place en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, des millions de familles américaines sont menacées de devoir quitter leur logement. Les démocrates américains ont appelé l'administration Biden à prolonger immédiatement l'interdiction nationale des expulsions de logements qui a expiré samedi. La demande a été faite par le biais d'une déclaration de la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, et d'autres hauts démocrates. Ils ont exhorté l'administration Biden à prolonger le moratoire lié au coronavirus jusqu'au 18 octobre. Joe Biden avait demandé au Congrès de prolonger la date limite jeudi au milieu d'une flambée de la variante Delta du COVID. Mais le Congrès n'a pas agi après que des membres de la Chambre républicaine eurent bloqué une offre dirigée par les démocrates. La Chambre est déjà partie pour une pause estivale de 6 semaines et on ne sait toujours pas si l'administration pourrait prolonger le moratoire en utilisant les pouvoirs exécutifs. Plus de 15 millions d'Américains sont confrontés à des expulsions car ils sont actuellement en retard dans le paiement du loyer au milieu des restrictions liées au COVID-19. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'inauguration de projets nationaux est une épine aux yeux des conspirateurs contre l'Iran. Déclaration du président sortant Hassan Rouhani. À l'époque où nous étions confrontés à la fois à la guerre économique et au coronavirus, il était très important de répondre au monde et les inaugurations et les mises en exploitation les jeudis étaient une épine dans le pied de ceux qui complotaient contre l'Iran. Se félicite le président Rouhani. S'exprimant dimanche après-midi, lors de la cérémonie d'inauguration des projets nationaux des ministères du pétrole et de l'intérieur et de l'Organisation de l'énergie atomique et de l'Organisation de la sécurité sociale à travers le pays, le président Hassan Rouhani a déclaré « Au cours des 8 dernières années, de nombreuses mesures ont été prises dans le pays et de grands projets ont été inaugurés. Et quand on parle de ces réalisations, il ne s'agit pas seulement du gouvernement, mais de la grande nation iranienne. » Hassan Rouhani a également déclaré que des travaux uniques ont été réalisés dans l'histoire de l'Iran dans le domaine du pétrole, du gaz et de la pétrochimie au sein de son gouvernement, déclarant Le développement de Soutpars et Assalouye est très évident aujourd'hui et nous devons savoir que ce n'est pas l'argent qui a fait Assalouye, mais l'amour pour la prospérité de l'Iran et la foi de notre grand peuple. Le président sortant a qualifié les projets inaugurés dans la région d'Assalouye de plus grands projets économiques de l'histoire de l'Iran et a poursuivi au cours des 8 dernières années, sauf pendant l'épidémie de coronavirus qui a empêché les déplacements, j'ai visité Assalouye 6 fois et j'ai inauguré à chaque fois des phases importantes dans cette région. Hassan Rouhani a souligné, pendant le mandat du gouvernement de prudence et d'espoir, 10 phases actives à part sud sont passées à 27 phases et 17 phases ont été ouvertes au cours des 8 dernières années. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les phases de part sud sont presque terminées et il ne reste qu'une phase en raison des conditions de sanctions et de guerre économique. Dans le domaine du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, des mesures sans précédent ont été prises au cours des 8 dernières années, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'Iran et le travail accompli en 8 ans peut être comparé à il y a des décennies, Et bien sûr, le travail principal dans ce domaine a été effectué par la nation iranienne, des ingénieurs et des jeunes. Nous sommes fiers de la grande nation iranienne et de notre pays, l'islam et la révolution. Nous avons des sentiments forts à propos de l'énergie nucléaire parce que la principale excuse pour la pression des ennemis sur la nation iranienne était l'énergie nucléaire, a-t-il encore déclaré. Le président a poursuivi, de nombreuses pressions ont été exercées sur la nation iranienne depuis 2001 sous prétexte de la question nucléaire. C'est pourquoi cette question est très importante pour nous. Après le plan d'action globale conjoint PGAC, il y avait de la propagande selon laquelle le gouvernement iranien avait échangé la technologie nucléaire contre des dollars et de l'argent, alors que c'était incorrect et inexact, et avec les inaugurations qui se faisaient dans le domaine de l'énergie nucléaire, le travail accompli dans ce domaine est devenu clair. Ces derniers mois, lorsque l'Organisation de l'énergie atomique a été tenue d'augmenter l'enrichissement à 20% et à 60%, et également d'augmenter la quantité d'enrichissement et d'activer de nouvelles machines et équipements, les grandes mesures qui ont été menées dans ce domaine sont devenues plus claires, a-t-il encore déclaré. Nous avons eu de bons progrès dans la technologie nucléaire, mais nous manquions de sa matière première et de son « yellow cake », et l'une des réalisations du PGAC a été l'arrivée du Yellow Cake en Iran. Et des dizaines de tonnes sont entrées en Iran à chaque fois, ce qui a enrichi nos ressources. Hassan Rouhani a ajouté « Aujourd'hui, en termes de technologie, de fabrication, de fûte et d'activation de nos ressources et mines, de bonnes mesures ont été prises et le coût de production du Yellow Cake » a été réduit de 1 000 dollars le kilogramme à 80 dollars. Bien sûr, nous devons faire lever les sanctions et de bonnes mesures ont été prises à cet effet. Nous espérons que ce processus continuera à porter ses fruits dans le prochain gouvernement, a-t-il espéré, se référant au projet inauguré dans le secteur de la sécurité sociale. Les mesures prises pour l'utilisation gratuite des hôpitaux publics par les travailleurs et les retraités sont très précieuses. En moins de 2 ans, le gouvernement a payé une grande partie de ses dettes à l'Organisation de la sécurité sociale, malgré tous les problèmes. Et nous espérons que tous les travailleurs et le peuple iranien bénéficieront de ces fruits, a espéré le président sortant, Hassan Rouhani.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et Débat. En Tunisie, le président Saïd a démis de ses fonctions. Le Premier ministre a annoncé le gel des activités du Parlement pour un mois. Cette décision du président tunisien a en fait suscité diverses réactions. Il y avait surtout cette réaction du côté du parti Ennahda, du parti Ennahda, en fait le parti Ennahda qui a annoncé dans un premier temps vouloir, si vous voulez, défendre la Constitution. Le parti Ennahda qui a accusé dans un premier temps le président d'avoir perpétré un coup d'État, mais ensuite le parti de Ennahda a changé d'avis et mardi, le parti a appelé en fait au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Et du côté du président de Kais Saïd, il dit que voilà, son objectif n'est pas, si vous voulez, de mener un coup d'État, son objectif est d'essayer de sauver la Tunisie et le président Kais Saïd s'appuie sur l'article 80 de la Constitution qui permet au président de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays pour justifier sa décision. Comment peut-on expliquer ce qui se passe actuellement en Tunisie. On va vous en parler dans le cadre de cette émission avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage et on reviendra tout de suite après.
Le 23 juillet, soit 4 jours avant que le camp pro-US, pro-Israël tente de plus en plus à décrire comme un coup d'État anticonstitutionnel du président Saïd, juriste de formation, la Tunisie, État le plus endetté du monde, puisque le printemps arabe en a fait un otage du FMI, a annoncé avoir remboursé l'empreinte obligatoire de 506 millions de dollars, 500 millions de dollars en principal et 6 millions en intérêts, soit l'équivalent de 1,412,6 millions de dinars. Le rapport affirmait surtout que l'empreinte avait comme garant les États-Unis eux-mêmes et que ce modus operandi tunisien, n'ayant pas plu aux Américains, risquait de fermer de facto toute possibilité de prêt supplémentaire, surtout que Tunis refuse de prévoir des réformes euphémistes, d'avoir même un calendrier pour de nouveaux prêts. De plus, et depuis plus de 48 heures, la population tunisienne fait la sourde oreille aux appels à la manifestation lancée à tue-tête par les fréristes. Aux dernières nouvelles, Kais Saïd bénéficie du soutien des institutions sécuritaires et militaires après qu'il a rencontré leurs dirigeants. Le mouvement semble soigneusement calculé. Ensuite, l'absence d'une prise de position directe de la part de la Confédération tunisienne du travail, l'une des branches politiques les plus influentes, indépendantes et efficaces du pays par rapport à la démarche du président. Par contre, le secrétaire général adjoint de la Confédération a indirectement soutenu le président, déclarant que ces mesures n'étaient pas contre la Constitution et que le parti a adopté une position similaire. Puis, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas descendues dans la rue pour soutenir la coalition Ennahda, comme on s'y attendait, et le petit nombre de députés ont rejoint le président devant le Parlement après sa fermeture par les forces de sécurité. Le Tunisien Kais Saïd a intelligemment empêché les escalades et la propagation du chaos. Il a attendu que l'état de colère et de ressentiment populaire atteigne son paroxysme et que ses adversaires partagent leurs convictions sur la faiblesse du parti pour prendre des mesures décisives comme celle qu'il a prise la nuit dernière. La destitution du premier ministre dissident et le gel des travaux du Parlement plutôt que sa dissolution. Les points forts du président Saïd résident dans son indépendance, ses mains propres et les 73% des voix pour la plupart des jeunes qu'il a obtenus lors des récentes élections présidentielles, sans oublier sa non-affiliation ni direction d'aucun parti politique et son rejet catégorique de la normalisation avec Israël. Un pressentiment dit qu'à l'interne, il y aura dans les jours, les semaines et les mois à venir une désaméricanisation galopant, voire l'émergence d'un axe maghrébin anti-US Israël, anti-Grand Maghreb.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission. On va partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre une analyste franco-syrienne. Il s'agit de Madame Aïssa Midani, qui est en ligne, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, depuis Damas avec nous pour cette émission. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Bonjour à vos invités.
Beaucoup et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mon collègue.
Merci. Votre collègue pour l'émission d'aujourd'hui, c'est Madame Aïssa Midani, Luc Michel. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement en Tunisie, s'il vous plaît?
En fait, je trouve que c'est effectivement le président Kais Saïd a eu le courage de ses idées. Et le courage de ramener la Tunisie en fait dans la voie du peuple, je dirais, puisque de toute façon cet ordre de dissolution, je dirais, ou d'arrêt ou de geler l'Assemblée nationale qui est présidée par Ennahda, qui sont les frères musulmans, ont été ont paralysé le pays d'un côté. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les frères musulmans ont été les grands protecteurs des terroristes. Hein. Ce sont eux qui ont recruté des terroristes qu'ils ont envoyés en Syrie et ailleurs dans le monde arabe. Que c'était aussi eux qui sont responsables des assassinats de deux grands leaders politiques, Ibrahim Shaibi et Shalbi. Et les deux, en fait, qui sont des grands militants tunisiens. Il y a aussi le fait que, ils sont. Je voudrais rappeler un fait, en fait, c'est que, et c'est l'alliance en Bougane, Ghannouchi. Le lendemain de la réunion du gouvernement et de la présidence de l'Assemblée nationale, il est parti en cachette rencontrer Erdogan en soi-disant rencontre privée. Ce qui a été soulevé par pas mal de personnalités du Parlement lui-même, lui demandant de démissionner et disant que de toute façon, ils ne sont absolument pas honorés d'être présidés par quelqu'un qui joue l'office d'un traître. Hein. Et qui va rencontrer des puissances étrangères juste au lendemain de la précision de la de la stratégie du pays et de stratégie de développement. Un dernier point qui est très important aussi du côté de qui milite dans le sens de qu'il a affirmé à plusieurs reprises que de toute façon normalisation des rapports avec Israël est une grande trahison. Et ça, c'est un point qui est très important. Et en fait, on voit que les frères musulmans jouent dans le sens plutôt d'arrondir les angles et puis d'aller dans le sens des relations avec Israël, comme on a vu en fait avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn aussi. Et en fait, et même le Maroc, en fait. D'ailleurs, les réactions qui se sont faites à ça, la réaction de Joe Biden en disant « Ah, nous avons un regard spécial sur la Tunisie pour la démocratie, nous surveillons de près », la réaction d'Israël aussi qui commence à dire « Oula, on a peur que la Tunisie influe les positions au Maroc et puis puisse créer un axe au niveau des pays du Maghreb contre Israël, etc. » Donc ça en dit long déjà sur la nature de cette action. Alors, un dernier point que je voudrais ajouter, il est certain, et il faut le savoir, que la majorité du pays, au niveau du peuple, hein, la majorité est avec le président Qaïs Saïd. Ce qui a poussé, d'ailleurs, à Marda à se ranger du côté du dialogue national et à empêcher... a refusé aussi, après avoir appelé à des manifestations importantes, etc., pour la démocratie. Comme ça n'a pas marché, et bien maintenant, il se range aussi du côté du dialogue national, disons.
Merci beaucoup, Madame Midani. C'est vrai, en fait, le parti Ennahda a appelé en fait, au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Madame Midani, vous avez en fait exprimé votre point de vue sur en fait les positions d'Ennahda. Et les portes en fait de Presse TV français sont ouvertes également aux responsables du parti Ennahda s'ils souhaitent, par exemple, s'exprimer sur ce que vous venez d'expliquer comme analyse, comme point de vue sur en fait notre groupe de chaîne, mais quand même en fait les positions et les points de vue des experts, toujours c'est comme ça sur notre chaîne Presse TV, n'engage qu'eux-mêmes. C'est pourquoi en fait les responsables du parti Ennahda également peuvent, s'ils le souhaitent en fait, s'exprimer sur notre chaîne. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Madame Midani. Votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez,
la Tunisie, c'est l'échec de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça a été un des premiers pays touchés, et depuis, c'est un pays en catastrophe nationale. Le tourisme, qui était la principale revenue, il a du plomb dans l'aile. La stabilité politique existe et le terrorisme a fait son apparition. Quel était le plan de départ du printemps arabe américain ? C'était d'associer les partis des frères musulmans à parfois des composantes militaires ou des composantes nationales. Au bout de maintenant 10 ans, c'est un échec complet. Il y a une conjoncture actuelle, ça fait que les frères musulmans n'ont plus le vent en poupe. Vous avez vu que pour la première fois, un pays en Europe, c'est l'Autriche, a interdit les frères musulmans purement et simplement. Et la Tunisie, maintenant, est un nouvel échec. Il faut constater qu'en ce moment, la Turquie d'Erdogan, qui est le parrain des frères musulmans, Erdogan dirige une véritable internationale avec une branche militaire, c'est les organisations Tafkiris que nous appelons djihadistes en Europe, et une branche politique qui sont les frères musulmans justement, avec leur variante arabe directe ou leur variante libyenne comme les confréries Sédoucis. Aujourd'hui, Erdogan a été rappelé à l'ordre, il a été remis dans le cadre des activités de l'OTAN. Il a été obligé de faire profil bas avec la France, avec la Grèce et aussi avec l'Égypte qui est l'allié des États-Unis dans la région. À partir de ce moment-là, ce qui arrive aux frères musulmans, c'est également le rétropédalage des Turcs, c'est-à-dire que le parapluie turc qui protégeait les frères musulmans, il n'est plus aussi effectif. Ils vont voir maintenant si d'autres pays vont suivre. Donc, pays européens qui ont interdit les activités des frères musulmans. Mais on sait qu'il y a actuellement un très grand scandale politique en Belgique. En Belgique, il y avait une commissaire du gouvernement nommée par le gouvernement régional bruxellois actuel. La Belgique, c'est un État fédéral. C'était une militante arabe proche des frères musulmans. Elle a été dénoncée par un rapport de la Sûreté de l'État. Elle a dû démissionner. Et maintenant, on en a fait... L'aile droite du gouvernement bruxellois a fait de ce dossier un dossier de priorité nationale. C'est donc maintenant le deuxième pays européen où on s'intéresse aux frères musulmans. Vous avez vu que la loi française vise à la fois actuellement sur le séparatisme, elle vise à la fois les frères musulmans et les confréries turques du genre Miligorus ou du genre Delougri. Et donc ce qui se passe maintenant en Tunisie est très intéressant puisque c'est le transfert de cette offensive pour les frères musulmans dans le territoire arabe, ici en Afrique du Nord. Maintenant, l'aspect purement tunisien, évidemment, la population est fatiguée, elle est épuisée par la crise économique qui est purement la résultante du printemps arabe, qui a été en fait un hiver glaciaire. Et donc, il est tout à fait normal que le président ait tenté ce coup de force. Le but, c'est de reprendre la main, d'éjecter les frères musulmans de la vie politique et de se faire soutenir par une majorité. Mmh. C'est l'un des dossiers les plus intéressants à suivre actuellement dans le monde arabe, mais aussi en Europe occidentale. Mmh.
Madame Midani, sur le plan de la politique intérieure, comment analysez-vous cette décision du président tunisien de limoger, de démettre de ses fonctions le Premier ministre et d'annoncer le gel des activités du Parlement pour une durée d'un mois en invoquant l'article 80 de la Constitution, je viens de le dire tout à l'heure au début de notre émission, qui dit que voilà, lorsque le pays est confronté à un danger imminent, cet article permet, si vous voulez, au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles, Madame Midani.
Effectivement, le pays était en danger imminent puisque de toute façon tout était paralysé et on n'arrivait pas à se sortir de ce schisme où ça allait présumé un schisme du pays. Donc, le président a pris les devants avant qu'il y ait la catastrophe pour le faire. Et bon, bien sûr, il y en a qui crient au coup d'État, etc., puisque l'interprétation de ces conditions, nécessaires à l'utilisation de cet article de la Constitution, pas nécessairement contraignante, je peux dire. L'explication n'est pas évidente pour tout le monde. Mais le président a cette prérogative et il a ce droit. Il a jugé que la situation était suffisamment grave qu'il est dans l'obligation de sauver le pays en prenant cette décision, et surtout en levant, disons, en essayant de geler toutes les décisions, surtout l'Assemblée nationale qui est présidée par Al-Marda, par Al-Renouchi. Et d'ailleurs, on suivait un certain, et puis le Premier ministre, mais aussi on suivit un certain nombre de limogeages de personnalités qui sans doute reviennent à Al-Marda et qui ont occupé aussi des postes les plus importants, notamment le poste de responsable de la compagnie du gaz et de l'électricité, qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'économie tunisienne, de l'économie en général. Donc, en fait, c'est une décision que je pense être effectivement salvatrice. Hein. Et on espère que le président Kais Saïd a un plan de redémarrage du pays, et puis qui soit clair et qu'il va pouvoir mettre en application rapidement, de manière à permettre aux Tunisiens d'avoir non seulement la sérénité au niveau de leur avenir, mais surtout d'avoir un minimum de solutions pour leur vie quotidienne, qui n'a cessé de s'aggraver d'ailleurs depuis le début de ce que vous appelez le printemps, de ce qu'on appelle communément le printemps arabe, et qui a été une volonté effectivement de casser tous les pays arabes et de les disperser et puis de les transformer en pays et en état en état d'échec. Voilà. Et je pense que le président Saïd a aussi cette envergure. Il a aussi, quand on voit ses positions jusqu'à présent, on voit qu'il est plutôt pour le retour vers l'arabité, vers le nationalisme arabe et vers les pays qui résistent et qui s'affirment, et vers la souveraineté de la Tunisie, une souveraineté totale, donc vers laquelle il aspire.
Mm-hmm. Luc Michel, vous l'avez dit, Madame Midani aussi, elle a évoqué, en fait, ce dialogue national s'avère désormais important, d'autant plus que le président tunisien est appuyé, à en juger par des sondages et des analyses, et par la majorité de la population. Surtout, il est appuyé par les jeunes tunisiens. Alors, le résultat de ce dialogue national, Luc Michel, s'avère en fait décisif et important pour la Tunisie, également pour la région, n'est-ce pas, Luc Michel?
C'est très important parce que actuellement, il y a en Afrique du Nord, à cause de la Libye, une zone d'instabilité importante qui se prolonge vers le Mali et vers la Centrafrique, où à la chute de la Jamahiriya, les Français, les Américains ont appliqué des scénarios à la Libyenne. Vous savez qu'il y avait même un Conseil national de transition, comme en Benghazi, à Bangui. Donc, il faut maintenant essayer de rétablir de l'ordre dans la région. Il y a un point de stabilité qui est l'Algérie, mais malheureusement, l'Algérie est contrebalancée par le Maroc. Le Maroc, c'est le point d'entrée des Américains en Afrique du Nord. Et le Maroc a le statut d'allié privilégié de l'OTAN. Il y a eu des grandes manœuvres qui se sont tenues il y a 3 semaines, qui s'appelaient Lion Africain 2021. Elle unifiait l'armée américaine, l'armée marocaine, une dizaine d'armées africaines. Ils ont déployé des troupes aux frontières de l'Algérie, du Sahara espagnol, du Sahara ex-espagnol, mais surtout du Mali. Le but, c'était évidemment d'essayer d'intimider les Russes, en particulier les colonels pro-russes de Bamako. Donc, voir ici la Tunisie échapper à l'orbite des frères musulmans, c'est-à-dire actuellement échapper à l'orbite de la Turquie. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2019, la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, elle n'est pas venue seulement appuyer les Tahriristes à Tripoli. Elle a repris le contrôle de la Libye en grande partie pour le compte des Américains et de l'OTAN. Voir donc cette Tunisie échapper à cela et, je l'espère, se rapprocher de l'Algérie, ça peut constituer un pôle de force pour ramener la stabilité dans la région. Actuellement, cette stabilité n'existe plus. Il y a une grande zone d'instabilité qui s'étend aujourd'hui du golfe de Sirte en Libye jusqu'au golfe de Guinée. Il y a actuellement une opération occidentale de déstabilisation du golfe de Guinée. Il est donc important que sur la partie, le versant du golfe de Sirte, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Libye, un pôle de stabilité se rétablit. C'est moi ce que j'attends, malheureusement, de ce qui arrive à la Tunisie. La Tunisie, comme la Libye, ce sont des pays, évidemment, qui payent de plein fouet ce soi-disant printemps arabe. Ils connaissent la misère, ils connaissent le chaos, ils connaissent le terrorisme, ils connaissent les frères musulmans. Il est temps que tout cela s'arrête. Ce qui laisse un espoir principal, c'est que le printemps arabe a été possible parce qu'il y avait le mécontentement de la jeunesse. La jeunesse a été manipulée, notamment par les organisations de George Soros. Dans tous les pays, elles se sont lancées à l'assaut des régimes nationalistes arabes. Ça aboutit à une catastrophe. Voir maintenant la jeunesse tunisienne revenir derrière un président qui défend ce nationalisme arabe, c'est un signe d'espoir.
Merci. Merci beaucoup, Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles. Des merveilles.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Dans l'émission de cette semaine, nous entendons vous présenter un autre pôle de tourisme en Iran. La province de Charmahal et Bakhtiari, joyeux de la zone du Zagros, pour reprendre le terme exact de certains touristes qui ont visité cette province située dans l'ouest de l'Iran et qui s'appelle aussi le toit de l'Iran. Restez avec nous. Dans la partie centrale du massif Zagros, la province de Charmahal et Bakhtiari est voisine de quatre autres provinces, à savoir les provinces d'Ispahan, de Khuzestan, du Lorestan et de Korkiluyeh et Boyer Ahmad. La province de Charmahal et Bakhtiari se trouve à 529 km de Téhéran. Son chef-lieu, la ville de Shahrekord, à 2150 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, est surnommé le toit de l'Iran. La province de Charmahal et Bakhtiari couvre une superficie de 16 533 km² et fournit annuellement 11 milliards de mètres cubes d'eau au pays, et cela grâce à la montagne Zartku et d'autres montagnes du massif du Zagros situées dans cette province et qui assurent les besoins en eau d'au moins deux provinces, dont Ispahan et le Khuzestan. La province de Charmahal et Bakhtiari compte quelque 70 000 hectares de forêts et 900 000 hectares de prairies. Nous y avons aussi une pêcherie où on élève des poissons d'eau douce, notamment la truite, pour tout le pays. Et cela grâce aux nombreuses sources et rivières qui traversent cette région. La province de Charmahal et Bakhtiari est riche en beaux paysages naturels, riches d'une grande variété de végétaux, notamment les plantes officinales qui peuvent constituer de très bons souvenirs de la province. Son chef-lieu, la ville de Shahrekord, a ses propres attraits touristiques. Citons en l'occurrence le pont Zaman Khan, le pont Horé, la belle vallée du fleuve de Zayanderout, des monuments historiques, la grande mosquée, le bâtiment Azadeh et des palais-musées. Le district de Shahrekord a de très beaux jardins qui s'étalent sur les rives du Zayanderout, ainsi que des vergers d'amandiers et de noyers. Une autre ville de la province de Charmahal et Bakhtiari est Borujan, avec un riche passé historique et ses attraits touristiques, dont la source Sia Sard, l'étang Gadoman et l'étang Churadortar, aux paysages enchanteurs, voire uniques en leur genre. Les travaux artisanaux de Borujan sont le kilim, le feutre, le tapis et de nombreuses autres activités artisanales que les hommes et les femmes laborieux de cette province produisent. Lordegan est une autre ville de la province de Charmahal et Bakhtiari qui est située sur la muraille latérale du Zagros dans une région frostière dotée d'un magnifique panorama. Parmi les plus touristiques de Lordegan, citons la source de Ben et le temple du feu de Lordegan qui est superbe. Nous pouvons également citer Armand. La région d'Armand est une des zones de cette province où l'on a fait des investissements pour le développement du tourisme. Une autre ville de la province de Charmahal et Bakhtiari est Ardal, avec un tissu démographique constitué de nomades et doté de très beaux sites naturels, dont les cascades de la vallée de l'Amour, une magnifique région au sublime paysage qui est très visitée par les touristes. La ville de Kuhrang est célèbre pour ses hivers rudes et enneigés. On y trouve des pistes de ski, le festival de la ville de neige y est annuellement organisé. Parmi les attraits touristiques de Kuhrang, citons la source de Deime, dont l'eau a des vertus curatives. Le tunnel de Kuhrang, la source de Sheikh Ali Khan, la belle région de Bazof, où un site touristique a été construit, sont d'autres attraits touristiques de la ville de Kuhrang. N'oublions pas aussi la montagne Zardkou, littéralement la montagne jaune, avec un sommet aux neiges éternelles. Deux fleuves y prennent leur source, le Karun et le Zayanderout. Des milliards de mètres cubes d'eau sont déversés annuellement de cette montagne dans le Karun et le Zayanderout. Majestueuse, la montagne Zardkou de Bakhtiari offre au regard du visiteur un panorama splendide et attire de nombreux touristes iraniens et étrangers. Les touristes étrangers pourront voir dans la province de Charmahal et Bakhtiari une région vierge avec ses tribus nomades qui vivent toujours sous leur tente. Le déplacement hivernal et estival de la tribu Bakhtiari a ses propres attraits. Une autre ville de la province de Charmahal et Bakhtiari est Farsan, qui est réputée en tant que pôle touristique. À l'instar de Kuhrang, la ville de Farsan a aussi une piste de ski. Farsan a de très beaux sites naturels, dont la région de Pir Ghar, qui est de toute beauté. Il y a de nombreux autres sites naturels et touristiques à Farsan. Citons en l'occurrence les monuments historiques de Jutaran et les forteresses et les citadelles de Sardar Assad qui sont majestueuses. Parmi les travaux artisanaux de cette région, on peut citer la poterie, le travail du feutre et les tapis. la ville de Kiar est une autre ville de la province de Charmahal et Bakhtiari qui a ses propres caractéristiques, dont de merveilleux paysages et panoramas. Kiar figure parmi les plus belles villes de la province de Charmahal et Bakhtiari. Elle se distingue aussi par de précieux travaux artisanaux, dont le tissage du tapis et du kilim, le fruit du travail laborieux de ses artisans. La province de Charmahal et Bakhtiari est un festival de couleurs et de cultures. Chaque coin de cette province a ses propres attraits et ses sublimes paysages. Nous voici au terme de l'émission de cette semaine. Amis auditeurs, la prochaine fois, nous vous parlerons plus en détail de cette belle province, de ses habitants, de ses coutumes et de sa nature. Soyez donc nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Thank you.